toujours avec Patrick, mais là je comprends pas là. Tu as quel âge, jeune homme?
J'ai 30 ans.
Mais non, attends, Patrick il a 41 ans.
Et oui, quand Patrick est arrivé, j'avais moins 8 ans. Ouais, un peu plus même d'ailleurs, j'avais moins 11 ans en 78. Ouais. Je suis né en 89.
Donc là, Patrick, c'est le film Camping, c'est ça? C'est Patrick Chirac, non?
Oui, on attend pas Patrick du coup. Tout le monde attend Patrick en fait. Hein. Donc oui, oui. C'est un petit peu ça, ouais. C'est un petit peu un air de vacances, un air de nostalgie, un air de souvenir pour tout le monde.
Quand tu es né, donc on est dans le TGV, et tout le fameux TGV orange. Quand tu es né, le TGV avait déjà 11 ans. Alors?
Eh ben ouais. Et après, moi, j'ai grandi avec, du coup. J'ai eu la chance, quand j'étais gamin, de connaître ces rames quand c'était orange. J'ai souvenir d'un Paris-Lyon, ça va être en 95-96, dans une rame orange. Et après, moi, je les ai retrouvés quand j'étais en Haute-Savoie, quand j'ai grandi en Haute-Savoie, entre Annecy et Paris. Et puis voilà, après j'ai appris à connaître ces rames-là, du coup. Donc, je suis content de faire cette tournée d'adieu avec toute l'équipe de conduite.
Tu l'as conduit?
Oui. Oui, j'étais autorisé. Je suis même le dernier conducteur de France à être autorisé à ces engins moteurs.
Carrément. Alors, j'avais le premier, puis maintenant, j'ai le dernier.
Voilà, c'est ça. La boucle est bouclée.
Bon, c'était un rêve de gamin que de conduire?
Oui.
On sait que, par définition, quand on est petit, on veut conduire un train, on veut conduire un bus, on veut conduire un métro.
Bah ouais. Et bah là, pour le coup, le rêve est réalisé. Et même au-delà, hein, parce que ça dépasse tout ce qu'on pouvait imaginer de plus de réalisable, en fait. On est au-delà de tout. Donc oui, c'est un rêve de gamin qui se réalise.
C'est un train?
Ah non, c'est plus qu'un train. Ah, c'est carrément plus qu'un train. C'est un train lambda, c'est le train de tous les jours. Une rame comme ça, quand on conduit une rame TGV Sud-Est qui a 42 ans, ça prend aux tripes. C'est fort, c'est quelque chose de très, très intense. On vit carrément, c'est un couple avec le train quand on conduit ça. On l'écoute parler, on lui parle, on en prend soin. C'est vraiment incroyable, on y fait vraiment attention.
On écoute parler un train. Ah, parce qu'un train, ça parle.
Oui, dans un train, on a coutume de dire que l'oreille est le troisième œil du conducteur. Et sur ce genre d'engin moteur-là, qui a une quarantaine d'années, c'était vraiment une technologie où le train, on l'entend quand il va bien, on l'entend quand il se tord de douleur, on entend toutes ces sensations, tout ce qu'il nous dit en fait. Et donc pour le peu qu'on sache l'écouter, après on peut... Et c'est ça qui est prenant en fait dans ce métier-là. C'est ça qui est prenant, et surtout quand on conduit ça. Les TGV maintenant actuels sont, et même pas que les TGV d'ailleurs, hein, tous les trains qui sortent maintenant nouveaux avec l'informatique, avec des moteurs plus silencieux, plus performants certes, mais il y a moins de sensations. Il en reste, on va pas se mentir, hein, c'est quand même très intéressant, mais c'est pas du tout pareil. C'est moins personnel en fait. Là, c'est vrai, il y a vraiment une personnalité dans ces rames-là qui est unique, qu'on trouve nulle part ailleurs.
Ce qui est assez extraordinaire, on vient de visiter toutes les rames. Oui, il y a eu de l'évolution, mais j'ai l'impression qu'on était déjà un peu d'avant-garde à l'époque.
Oh, pas tant que ça en fait, pas tant que ça. C'est l'aboutissement d'une technologie en fait, cette rame-là. Effectivement, c'est des technologies qu'on connaît maîtriser, le moteur à courant continu. Bon, après, il y a l'électronique de puissance qui est arrivée un tout petit peu avant les rames TGV Sud-Est, donc dans les années 70, qu'on commençait déjà à maîtriser dans les années 60, mais c'était pas tout à fait performant. Donc après voilà, cette rame là c'est la quintessence de tout ça, on a réunifié tout ce qu'on savait faire de mieux pour ça, et ça a donné des rames très complexes mais très fiables, et voilà, qui ont une belle descendance après derrière et qui ont permis des essais avec de tout ce qu'on a connu les générations suivantes, Atlantique etc. Tout a été testé sur ces rames là donc elles ont servi de base d'essais. C'est une quintessence des essais qui ont été menés depuis les années 50, donc dans la fin des années 70, donc ça fait une trentaine d'années d'évolution technologique pour arriver à ces rames-là. Et après, ces rames-là, une fois qu'elles sont arrivées, on a préparé l'avenir avec ces rames-là. Donc elles ont fait leur cycle, leur boucle aussi elles-mêmes, et puis elles ont rendu leur service.
Ah, une dernière question que j'ai oublié de poser. C'était la première fois qu'on avait ce type de train au niveau européen, mondial?
Ouais, européen, ouais. Il y avait... Alors mondial non, le Shinkansen japonais est arrivé dans les années 60, donc un petit peu plus tôt. Par contre, le Shinkansen c'était un peu différent, il était cantonné sur des voies à lui. Les ingénieurs qui ont créé le TGV en fait, ils ont créé un train, quand ça a été mis en concurrence avec l'aérotrain, notamment avec l'aérotrain de Bertin, ils ont créé la SNCF, les ingénieurs de la SNCF, c'est un groupe de passionnés à la base, hein, qui a créé le TGV, hein. C'est passionnés du chemin de fer, hein, qui se sont dit faut qu'on se réunisse, faut qu'on fasse quelque chose. Donc ils ont créé un train qui pouvait aller vite sur une voie nouvelle, mais qui pouvait tout aussi bien aller sur le réseau classique, se mélanger aux autres trains. Et ça donnait un produit complètement incroyable. Donc c'était inédit mondialement pour le coup. Et niveau européen, après, c'est ce qui a lancé tout le reste. Alors les Italiens avaient des automotrices qui pouvaient aller vite, les Allemands aussi, mais comme nous d'ailleurs. Mais voilà, c'était pas du système TGV. Après, tout a été lancé. Après, derrière, les ICE allemands sont arrivés un petit peu après. Les rames pendulaires italiennes, c'est à peu près contemporain. Donc, mais vraiment au niveau continental, au niveau européen, ouais, le TGV c'était le numéro 1, quoi. C'était le number one. C'était le premier à être arrivé là, quoi.
Demain, dimanche 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme, mais demain il rentre à la maison à Paris.
Ouais, demain on ramène Patrick à Paris.
Et après ?
Alors après, si l'actualité sanitaire, on va dire, à cause du coronavirus, malheureusement, si ça ne s'aggrave pas trop, on devrait descendre à Marseille le week-end prochain. Voilà, et donc on fait samedi-dimanche à Marseille. Et après, donc, on ramènera Patrick, donc la rame, dimanche soir prochain à Paris. Et après, par contre, ça sera terminé pour elle. Elle prendra sa retraite.
Direction la Cité du Train ?
Non, pas la Cité du Train. La Cité du Train de Mulhouse, alors oui et non en fait. C'est, quand je dis non, catégorique, je mens en partie. Alors la voiture dans laquelle on est, la remorque numéro 1, la voiture 1 de la rame 1, elle, oui, va aller à la Cité du Train. Parce que dans la rame du record du monde, de la rame 16 en 1980, le 26 février 81, cette rame-là, la rame 16, elle avait la remorque 1 de la rame 1, celle dans laquelle on est maintenant. Donc là où on est actuellement, cette voiture-là est montée à 380 km/h le 26 février 81. Donc elle, comme elle a une histoire, elle va partir à la Cité du Train de Mulhouse. Les deux motrices qui encadrent Patrick, donc les deux motrices de Patrick, la 23001 et la 23002, elles partiront dans des technicentres SNCF. Elles seront sauvegardées. Et en revanche, donc toute l'expo par contre sera sauvegardée. Hein, on a des projets pour l'expo. Et le restant des voitures, donc la voiture 2 à la voiture 8, elles par contre seront envoyées en recyclage et en démantèlement. Ouais, il y a un petit peu une petite nostalgie.
Ça fait un peu Adieu monde cruel de la Renault 5 quand elle est partie.
Ouais, il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça effectivement. C'est un peu. Bon, normalement, faut savoir tourner la page aussi. Hein. On a des projets. L'équipe de conduite qui est habituée à ce genre d'événement, donc qui a monté en grande partie toute cette exposition-là de Paris-Gare de Lyon, du Charolais. On a des idées pour l'année prochaine. Donc, si tout le monde est partant, on va peut-être pas trop avancer, mais on donnera des voix à tout le monde l'année prochaine. Il y aura peut-être une suite de la rame 1 après derrière. Pas pour la rame 1, il y aura peut-être un autre numéro devant, mais on a des idées en tête.
Ce qui serait génial, parce qu'il y a 3-4 mois, on avait l'Orient Express ici à Perrache, et là maintenant on a le TGV, et là c'est pris d'assaut, il n'y a pas d'autre mot. Hein.
Ouais, et à Paris on a battu des records, mais on s'est basé sur rien, hein, parce qu'il n'y a pas, d'antécédent. Mais à Paris-Gare de Lyon, on devait faire, rien que sur le week-end dernier, samedi-dimanche, on devait faire, je crois que c'était 1200 personnes, quelque chose comme ça. Et on a fait 2000 personnes rien qu'en 2 jours, donc on a prolongé 3 jours supplémentaires, on a fait 4500 personnes à Paris-Gare de Lyon. Donc c'était juste incroyable pour nous, et là à Lyon on savait très bien que ça allait être complet, donc effectivement tout s'est plein, donc voilà. Et si on peut accueillir du monde supplémentaire, on en accueille avec grand plaisir. Et pour nous c'est vraiment quelque chose d'assez important, parce qu'on se rend compte là que les gens sont très attachés à ça. Ça permet de nous de prendre un peu la température de tout ça, et dans le contexte actuel qu'il peut y avoir, que ce soit social, sociétal, enfin un peu tout. Et là on se rend compte que les gens, ils se raccrochent à ça en fait, ils se raccrochent à ce genre de souvenirs, ou à ces espèces de rêves de gosse qu'ils avaient, et de voir ça. Et le public, qu'on remercie encore une fois chaleureusement de se déplacer, venir nous voir, parce qu'on est très content, le public est très très satisfait. Dans le livre d'or, quand on le lit, c'est très émouvant, c'est assez touchant, surtout les enfants les plus jeunes qui n'ont jamais connu ces rames-là en orange. Et ils marquent des mots, c'est assez marrant, avec des petits dessins et tout, c'est assez rigolo. Et on se rend compte, voilà, que les gens, bien que c'est un peu... on peut penser que c'est un peu avec la SNCF, je t'aime moi non plus. C'est-à-dire en fait, on boude beaucoup, on critique beaucoup la SNCF, peut-être à juste titre par moment, hein, voilà. Mais à côté de ça, les gens viennent nous voir, et quand ils viennent nous voir, on leur présente la rame, on leur présente les cabines de conduite en tant qu'équipe de conduite, on leur explique comment ça marche, l'histoire un peu de tout ça, toute la rame dans laquelle ils sont. Et ben le public est très content de ça et oublie tout le reste en fait. On s'est fait la réflexion en équipe à l'issue de Paris-Gare de Lyon, on n'a aucune réflexion des gens sur les retards des trains, sur les grèves, même ça pourrait être tentant, hein, sur les temps, mais aucune personne nous a fait de remarques dans ce genre-là. C'est toujours savoir, c'est génial, ils voulaient savoir qu'est-ce qu'on allait faire de la rame après, donc ça les intéresse, ça les intrigue. Donc c'est très bien. Et nous, en tant que passionnés, on essaye d'être passionnants aussi. Donc c'est, on arrive à les faire un peu sortir du train-train quotidien, si on peut dire ça.
Comme on dit, qui aime bien châtie bien. Et puis, c'est toute notre jeunesse. Pas toi, mais nous, oui.
Oui, la mienne aussi. La mienne aussi, cela étant. La mienne, c'était sur la fin. Mais c'est la jeunesse de tout le monde. En fait, ce qu'on voulait, à travers cette exposition-là, on voulait en fait rappeler aux plus anciens, entre guillemets, hein, voilà.
Merci, hein.
J'ai rien dit.
Il est sympa, hein.
Je suis très gentil. Rappeler aux plus anciens, donc des souvenirs, parce qu'en 42 ans de carrière, donc 40 ans d'exploitation l'année prochaine, il y a beaucoup de personnes qui ont des souvenirs avec ces trains-là. Le TGV Orange, c'était waouh, on prenait le TGV Orange parce que c'était une révolution, c'était une race de trains qu'on n'avait jamais vue, c'était inédit, on sortait du vert wagon. Des trains de l'époque, ça mettait une couleur de dingue, enfin c'était le truc flash, donc ça rappelle des souvenirs aux gens, les gens qui pouvaient aller à Paris-Lyon en 2 heures à cette époque-là, mais c'était inimaginable. Donc ça a démocratisé le voyage pour beaucoup de personnes, beaucoup de familles, l'accès aux vacances, au ski, etc., à la mer, l'été, enfin. Donc voilà, et après pour les plus jeunes, pourquoi pas susciter des vocations aussi. On a beaucoup de parents qui viennent avec leurs enfants, ils disent « Ah, il veut être conducteur plus tard, et voilà, mets-toi sur le siège du conducteur et puis on va te montrer comment ça marche ». Donc c'est plutôt pas mal.
Allez, dernière question. Comment je fais pour devenir conducteur ? Moi, c'est trop tard, c'est ça, ce que tu vas me dire ?
Pas du tout. Pas du tout. T'es pas ancien.
Merci, c'est gentil. Non, comment est-ce qu'on fait ? Il faut faire des études spéciales ?
Alors moi, j'ai donné mon cursus. Moi, ça fait 11 ans que je suis à la SNCF. Donc je suis rentré en tant que conducteur directement. J'avais 18 ans, 19 ans. Moi, à l'époque, j'avais un bac technologique. Donc électrotechnique, maintenant ça s'appelle plus comme ça, ça a changé, je crois que c'est STI2D. Et après, on postule, on a des tests de recrutement, alors tests psychotechniques, tests de savoir si on sait calculer 1 plus 1, je caricature un peu, mais c'est un peu ça.
Ça fait combien déjà ?
Faut que je prenne ma calculette. je crois que ça va faire 2, quelque chose, je crois.
2,0.
Ah, c'est ça. Ah, 2,0, ouais, c'est ça. J'aime bien qu'il y avait une virgule qui était traînée. Mais voilà, donc non, en gros, voilà, c'est compréhension de français, compréhension de texte. Après, il y a les tests spécifiques au métier, donc pour voir si on sait, si on sait cogiter un petit peu, réfléchir, réagir à des sons, etc., savoir si on a de la mémoire, etc. Et puis après, une fois qu'on a passé tout ça, on passe un entretien avec un psychologue d'entreprise, voir si on n'est pas non plus, bête, quoi. Enfin, voilà. Et puis, on commence une formation qui dure un an. Et à l'issue de cette année de formation, qui est très dure, très intense, on passe ce qu'on appelle une barre, donc c'est un examen de conduite, qui est en 3 parties, écrit, oral, pratique. Et puis une fois qu'on a satisfait cet examen, on est lâché seul sur le bateau et puis on a le droit de conduire des trains.
On passe d'abord sur des trains et ensuite on évolue petit à petit pour en arriver au TGV.
Ouais, alors quand on est conducteur de ligne, oui, même conducteur de manœuvre d'ailleurs, on commence par des trains. Alors ça dépend de notre lieu d'affectation, donc ça peut être soit des TER si jamais on est à Lyon par exemple, on commence par faire des petites missions périurbaines, donc du genre des villes Franche-Vienne, Lyon-Perrache, Saint-André-le-Gaz, Lyon-Perrache, Firminy par exemple, Saint-Etienne. Quand on est en banlieue, comme c'est mon cas, moi j'ai commencé sur le RER B. Et après on évolue en fonction des affecteurs, soit on change d'endroit et on peut faire autre chose, présenter d'autres trains, on peut faire aux marchandises aussi, pourquoi pas, aux fret. Et après on évolue, il faut 8 ans de conduite de train classique avant de pouvoir prétendre d'être éligible d'accéder au TGV. Et à partir de ces 8 ans par contre après on rentre dans le listing de l'ancienneté, donc tous ceux qui sont avant nous, forcément on lui pour leur pose la question. S'il y en a qui y accèdent, ils vont en formation, il y en a qui refusent aussi, il y en a qui n'ont pas envie d'aller au TGV. Donc du coup on descend, on va chercher plus bas des candidats dans le listing et des fois ça peut arriver assez rapidement.
Bon, quoi d'autre ?
Bonne retraite à Patrick.
Merci.